Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Julien Célier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Ce soir à la une, le reconfinement. Toutes les volailles de France sont mises à l'abri. Elles vont passer l'hiver à l'intérieur. La faute encore une fois à la grippe aviaire. Alors faut-il craindre des abattages massifs? Le chapon de Noël est-il menacé? Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, sera notre invité dans un instant. Les autres titres de l'actualité, maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un jugement et une leçon pour Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée, devra apporter un bracelet électronique pendant un an ferme, 2 ans avec sursis. Peine prononcée aujourd'hui pour les violences du 1er mai et l'affaire des passeports diplomatiques. Dans ce journal aussi, une piqûre de rappel à ne pas oublier et une prochaine prise de parole confirmée pour Emmanuel Macron. RTL vous le révélait ce matin. Et puis c'est l'invité inattendu des quarts de finale à Bercy, Hugo Gaston, ce soir face au numéro 2 mondial. Les courses dans le Quintet Plus à Vincennes à 20h15. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 3, le 5, le 10, le 6, le 4, le 8 et le 9.
Dans un quart d'heure, RTL vous emmène en mer. Vous avez aimé Jean Galfione, champion olympique de saut à la perche. Vous allez adorer Jean Galfione, skipper. Il prendra le départ de la Transat en tandem Jacques Vabre ce week-end et il sera notre invité de 18h15. À 18h30, les dessous de l'actu dans les coulisses de la NASA. Opération digne du film Armageddon. L'agence spatiale veut dévier un astéroïde. Rien que ça. À suivre aussi Laissez-vous tenter dernière et le magnifique album de Noël du génial trompettiste Ibrahim Malouf. À 18h40, on va refaire nos régions. 20 minutes positives près de chez vous, comme chaque vendredi, avec au menu l'appel sur RTL de Notre-Dame de Paris aux artisans de toute la France. Ça peut vous concerner. Les camions à betterave également, de la discorde dans la Marne et puis un bon chou farci auvergnat pour le dîner. 19h15, ils refont la France. Les journalistes étrangers qui scrutent notre actu bleu-blanc-rouge autour de vous. Agnès Bonfillon, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Le menu?
Les retards, les grèves ou encore le prix des billets en France. Nous ne sommes pas les derniers à râler contre la SNCF. Au risque, vous l'entendrez, de passer pour des enfants gâtés.
Et puis des points réguliers sur le temps avec vous, Valérie Quintin, bonsoir.
Bonsoir, la tendance. un peu confus demain comme maintenant d'ailleurs. Pas mal de grisailles au réveil, une chance d'éclaircie quand même assez belle dans l'après-midi, excepté près de la Manche, on va avoir un petit peu de pluie, mais surtout, il va faire nettement plus froid demain matin.
Le détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
3 ans de prison, dont un ferme. Alexandre Benalla, condamné aujourd'hui dans le dossier, notamment des violences du 1er mai 2018.
Peine supérieure aux réquisitions. Bonsoir Anne Le Hennaff.
Bonsoir.
Avec à la clé un jugement qui s'est transformé en cours d'instruction civique pour l'ancien chargé de mission de l'Elysée.
Ah oui, il s'est fait tenser à la barre une bonne demi-heure. Le port d'armes à Poitiers vous avait donné des explications absurdes et irresponsables. Les passeports diplomatiques, vous avez franchi la ligne entre la débrouillardise dont vous vous vantez et la commission d'une infraction pénale. Quant aux violences de ce 1er mai, vous avez profité de la confusion et de la proximité avec le chef de l'État pour vous faire passer pour un policier. Un comportement inadmissible et insupportable pour le corps social, a dit la présidente, qui lui reproche ce sentiment d'impunité et de toute puissance. Benalla écoute, debout à la barre, trop serré dans sa veste bleu marine, et la cour en remet une couche. Votre sentiment d'impunité est tel que vous avez fourni un justificatif de domicile au nom de votre épouse, dont vous êtes divorcé. Le tribunal condamne donc Alexandre Benalla à purger cette année de prison ferme avec un bracelet électronique chez sa maman, à Rugles, 2300 habitants, entre Évreux et Alençon. Il repart du tribunal sans un mot derrière ses lunettes fumées. Il a 10 jours pour faire appel.
Compte rendu d'audience signé Anne Le Hennaff pour RTL. Les mots sont forts. Les évêques rassemblés à Lourdes en Assemblée Générale ont reconnu aujourd'hui la responsabilité institutionnelle de l'Église et la dimension systémique des crimes sexuels depuis 70 ans, les évêques qui ont aussi ouvert la voie à une réparation pour les victimes. Reconfinement général, les volailles aubercailles mises à l'abri annoncées ce matin pour éviter tout contact avec les oiseaux migrateurs potentiellement porteurs de la grippe aviaire.
Et notre invité maintenant sur RTL est le ministre de l'Agriculture. Bonsoir Julien Denormandie.
Bonsoir.
Cette mesure radicale s'imposait là maintenant?
Oui, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui vous avez ce virus de l'influenza aviaire qui est aux portes de notre pays. Il est aujourd'hui très présent aux Pays-Bas, il est aujourd'hui très présent en Italie, en Allemagne également. On a eu quelques cas, trois exactement, dans des basses-cours dans notre pays. Est-ce que nous avons décidé, c'est de prendre des mesures de protection de nos élevages, des volailles qui sont situées dans ces élevages, pour empêcher l'arrivée, ou en tout cas retarder l'arrivée de ce virus de l'influenza aviaire. Donc c'est une décision difficile, parce que c'est compliqué, parce que c'est des contraintes pour tous nos éleveurs, mais ce sont des décisions qui malheureusement sont nécessaires pour se battre contre ce virus de l'influenza aviaire.
Et éviter ensuite des abattages massifs comme la filière a pu en connaître ces dernières années.
Exactement, je rappelle que par exemple l'année dernière, nous avons eu ce virus qui est entré sur notre territoire et nous avons dû abattre 3,5 millions de volailles. Imaginez le traumatisme pour toute une filière. Et donc la question qui nous est posée, c'est est-ce que on se bat pour se protéger ou est-ce que on attend que le virus arrive et à ce moment-là, on fait l'ensemble de ces abattages, de ces dépeuplements, comme on dit. Eh bien, à l'évidence, il nous faut nous protéger. Mais se protéger, ça veut dire mettre à l'abri les volailles, c'est-à-dire soit les confiner dans des bâtiments, soit les mettre sous des filets pour que, justement, les volailles ne puissent pas être en contact avec ces oiseaux migrateurs qui apportent ce virus de l'influenza aviaire.
Alors, on sait que l'installation des filets, c'est pas toujours très simple pour les éleveurs. D'ailleurs, il y en a certains depuis ce matin qui se revendiquent déjà hors la loi, qui refusent d'obéir. Leur volaille est labellisée plein air et ils ne veulent pas le tromper le consommateur. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces éleveurs ?
Que nous avons beaucoup travaillé avec eux pour justement définir les meilleurs moyens de protection tout en conservant cette spécificité des élevages en plein air. Et c'est à l'issue de ces travaux que nous avons collégialement défini ces protections par les filets. Ça veut dire que la volaille continue à pouvoir avoir accès à l'air libre et avoir accès à l'extérieur. Alors oui, je vous l'accorde, c'est compliqué. Oui, ça n'est pas idéal. Mais oui, malheureusement, il n'y a pas de situation idéale quand vous avez des oiseaux qui passent au-dessus de votre pays, qui, eux, sont porteurs d'un virus et que vous ne voulez pas que ce virus vienne atteindre vos propres volailles.
Julien de Normandie, il reste 50 jours avant Noël. Est-ce que nos chapons, nos dindes pour les fêtes sont menacés ? C'est une crainte ?
En tout cas, ça nous oblige d'autant plus à prendre ces mesures de protection. Et moi, je voudrais vraiment saluer le travail de cette filière, le travail de ces éleveurs qui, sur ces 6 dernières années, ont eu 3 fois le virus qui est arrivé sur le territoire.
Oui, la production a chuté de 22% en 2021 déjà.
Exactement. Et pendant 3 fois, tous les 2 ans quasiment, on a dû abattre des millions de volailles. Eh bien, face à cela, évidemment que cela nous oblige à prendre des mesures, mais parfois des mesures dures, comme celles que j'ai dû prendre aujourd'hui, de mettre à l'abri ces volailles. Je le fais encore une fois par souci de préserver le travail de nos éleveurs, même si j'ai pleinement conscience que c'est difficile, et c'est pour ça que l'État est là pour, évidemment, accompagner.
Merci Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL pour nous expliquer donc cette décision, le reconfinement général de toutes les volailles de France en raison de la grippe aviaire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec un appel à la mobilisation générale pour la vaccination et avec le 8e de finale d'Hugo Gaston, notre champion de tennis tout à l'heure au Masters de Paris-Bercy. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal, 18h09 sur RTL. Nous vous le révélions ce matin, le gouvernement le confirme ce soir. Emmanuel Macron va s'adresser très prochainement aux Français.
Pour évoquer les réformes et le Covid face auquel il ne faut pas baisser la garde. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le Premier ministre Jean Castex, car même si la reprise est légère, elle est réelle dans de nombreux départements, d'où l'importance, a-t-il rappelé, de la 3e dose pour les plus de 65 ans.
Ceux d'entre eux bénéficiaires potentiels de cette 3e dose sont 7 700 000. Et là encore, j'observe que nous n'en avons vacciné que 3 100 000. J'appelle à la mobilisation générale autour de la vaccination. Nous pouvons diffuser la vaccination auprès des professionnels de santé libéraux. Je pense en particulier aux pharmaciens, parce qu'il y en a évidemment partout. Je vous invite à prendre au plus vite rendez-vous pour recevoir cette dose.
Jean Castex, cet après-midi, le Parlement de son côté a autorisé aujourd'hui le recours au pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Les gouvernants sous la pression de la jeunesse mobilisation aujourd'hui en marge de la COP26. Ils étaient des milliers dans les rues de Glasgow emmenés par la Suédoise Greta Thunberg qui l'a dit, elle n'attend rien de ce rendez-vous.
It is not a secret that COP26.
Ce n'est pas un secret, cette COP26 est un échec. Il est évident qu'on ne peut résoudre la crise avec toujours les mêmes méthodes. Mais soyons clairs, nos dirigeants en sont bien conscients. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent exactement ce qu'ils sacrifient pour maintenir leur business. Nous, nous disons la vérité. Les leaders, eux, sont effrayés par la vérité. Ils ne peuvent ignorer le consensus scientifique. Et par-dessus tout, ils ne peuvent nous ignorer, nous, le peuple, y compris leurs propres enfants. Ils ne peuvent ignorer nos cris et notre demande d'obtenir le pouvoir. Nous sommes fatigués de leur blablabla. Nos leaders ne dirigent pas. Ici, on voit à quoi devrait ressembler le pouvoir.
Greta Thunberg cet après-midi à Glasgow. Assez de bavardage. Place aux contraintes et aux sanctions. C'est aussi ce que dit le candidat insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon dans une tribune publiée aujourd'hui dans Libération.
Et Jean-Luc Mélenchon qui va prendre son petit déjeuner de campagne lundi matin sur RTL. Rendez-vous entre 7h30 et 9h. Vous allez notamment pouvoir lui poser vos questions au 3210. Il répondra aussi aux questions de François Langlais, d'Yves Calvi et évidemment d'Alba Ventura. RTL décidément au cœur de la campagne lundi, puisque lundi soir, à partir de 20h40, il y aura le premier débat pour l'investiture des Républicains entre les candidats, à suivre sur RTL.fr et sur LCI, présenté par Routel Krief, David Poujadas et avec la participation d'Alba Ventura.
Un accident de pêche, voilà ce qui a provoqué le naufrage du Bugalet de Braise. Conclusion de la justice britannique ce vendredi, qui écarte donc la thèse de l'implication d'un sous-marin défendu par les familles des victimes. Direction à présent Bercy, à Paris, pour le master de tennis où le public n'attend ce soir qu'un seul homme, en la personne d'Hugo Gaston.
Et oui, il a créé la surprise cette semaine. Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir.
Et le Français doit disputer dans un peu plus d'une heure son quart de finale face au numéro 2 mondial, un certain Daniil Medvedev.
Et la question est de savoir s'il y a encore de l'essence dans le moteur, car le Toulousain de 21 ans a eu peu de temps pour récupérer de sa formidable victoire la nuit dernière. Depuis son premier tour en qualification, Hugo Gaston a passé la bagatelle de 11h15 sur les courts de Bercy. Forcément, ça va compter ce soir contre un Medvedev qui n'a disputé que deux petits matchs. Le Russe numéro 2 mondial, vainqueur du dernier US Open, est en pleine confiance. Gaston le sait pertinemment. Écoutez ce qu'il disait hier soir au public parisien.
Jouer Daniil qui fait une saison incroyable et qui est tenant du titre ici, pour moi c'est que du bonheur. Donc je vais jouer à fond en espérant qu'il y ait autant de monde. Encore merci à tous parce qu'il est tard. Merci d'être resté.
Le public parisien qui aura encore effectivement un rôle à jouer ce soir pour porter Hugo Gaston, lequel est déjà assuré de franchir les portes du top 100 mondial avec ses belles performances à Paris. Il grimpera au moins au 60e rang du classement.
Allez Hugo, merci Isabelle Langer depuis Bercy pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et je voulais vous raconter l'histoire de cet étudiant lyonnais pour le moins culotté. À 18 ans, pour décrocher un stage, Marceau a transformé son CV en PV. Son parcours, il l'a résumé sur un tout petit morceau de papier, aussi gros donc qu'une amende, qu'il a ensuite déposé sur le pare-brise du patron de l'agence de communication qu'il souhaitait intégrer. D'abord agacé à l'idée de s'être fait aligner, le chef d'entreprise a confié sa stupéfaction à nos confrères du Progrès et quelques heures plus tard, il a décroché son téléphone. L'affaire était conclue, Marceau décroche un stage rémunéré de 6 semaines. Rendez-vous en janvier 2022.
Le culot ça paye. Pas mal. Bien joué Marceau. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps maintenant, cher Valérie, qu'est-ce que ça donne pour
ça donne
demain.
Qu'on va avoir froid demain matin, de fréquentes gelées sur pas mal de régions, la plupart d'ailleurs. Moins 1 degré au réveil à Alençon, à Orléans, à Cognac, un petit 2 degrés dans Paris. Des brouillards assez nombreux aussi le matin, en dehors des Alpes et des régions proches de la Méditerranée où là le ciel sera déjà bien dégagé, notamment avec l'aide des vents. Mistral et Tramontane seront déjà forts le matin. Et dans le même temps, une dégradation arrivera par les côtes de la Manche dans le courant de la matinée. Ça ne va pas donner grand-chose dans un premier temps, mais un ciel assez chargé de la pointe bretonne aux Hauts-de-France avec quelques averses. Pour les autres, un après-midi plutôt ensoleillé, toujours avec du vent dans le midi et des températures comprises entre 7 et 19 degrés. 11 à Lille et Dijon, 12 à Paris, 13 à Rennes et Biarritz et 19 à Toulon.
Merci Valérie. Je vous laisse enfiler votre ciré, chère Valérie, parce qu'il y aura un petit peu d'aventure dans les minutes qui viennent.
J'ai
dans
hâte.
RTL Soir. 50 000 personnes sont attendues ce week-end sur les pontons du Havre, d'où va partir la Transat Jacques Vabre dimanche. Transat en tandem, en duo. Jean Galfione, l'ex-champion olympique de saut à la perche, désormais skipper, s'apprête à lever l'ancre. Il nous racontera son étonnante reconversion. Juste après ça, vous restez à l'écoute, on revient dans quelques instants. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, avec Julien Cellier.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, l'invité maintenant de RTL Soir, c'est un athlète complet, c'est un aventurier. Il y a 25 ans, il vous faisait vibrer, il devenait champion olympique de saut à la perche, souvenez-vous.
Champion olympique, je crois que c'est fabuleux. Je voulais une médaille, je me retrouve champion olympique. Enfin, ça m'a souri, ça a pu sourire à un autre, c'était à moi. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai une bonne étoile peut-être.
Alors désormais, il est skipper. Il prendra dimanche le départ de la Transat Jacques Vabre au Havre, où des milliers de badauds se pressent déjà sur les pontons. Bonsoir Jean Galfion.
Bonsoir.
Alors vous allez prendre la mer avec un nouveau bateau, Sérénis Consulting. Vous serez à cette occasion le porte-parole de l'Institut Lyrique qui sensibilise le grand public aux maladies du rythme cardiaque. Le grand public, tiens, parlons-en, parce que peut-être qu'en allumant la radio ce soir, il vous découvre marin, même si c'est vrai que vous avez embrassé cette carrière à la fin de votre première vie dans les stades. En fait, vous êtes passé de l'abonnement à des revues pour la mer à voileux. Racontez-nous cette transition.
Ouais. Moi, je rêvais en regardant les grands skippers comme, je sais pas, Roland Jourdain, Jean Lecas, Michel Desjoyaux, faire des exploits sur l'eau. J'étais toujours avec un bouquin d'aventure maritime sous le bras et des revues de voile, en effet, quand j'étais en stage ou en compétition, en meeting d'athlètes. Et puis, quelques années après, me voici au départ de course avec ces gens-là. Donc, c'est un rêve fou et c'est comme si on me disait, je sais pas, que j'allais être, que je jouais la Ligue des Champions ou participer au Grand Prix de l'Arc de Triomphe comme jockey. Enfin, voilà. C'était des univers ce qui n'était pas le mien et même si j'avais beaucoup d'admiration, ça me concernait pas. Et d'un coup, c'est comme si on, voilà, c'était vie ma vie ouais. Et c'était drôle quoi. Donc du coup, ça a changé radicalement le jour où j'ai arrêté la perche et je suis parti naviguer sur les bateaux de Coupe de l'América dans un premier temps sur des postes très physiques où il fallait tourner les manivelles, ouais. Sortir les sacs, les voiles des soutes et faire la prépa physique de l'équipage le matin. Ça a commencé comme ça.
Et ce qui est assez incroyable, c'est cette volonté de réapprendre, de repartir de zéro. Vous auriez pu passer dans l'encadrement, ouais. Au saut à la perche, dans l'athlétisme, et vous avez choisi l'inconfort quelque part.
C'est un peu ça. On m'a proposé, hein. J'ai eu des propositions pour être directeur des équipes de France, des choses comme ça au sein de la fédération ou au sein d'entreprises qui rayonnaient autour du monde de l'athlétisme, bien sûr. C'était très confortable, en effet. C'était un domaine que je connaissais bien, mais j'avais ce petit truc dans la tête, c'était un bateau qui naviguait et j'avais envie d'aller jusqu'au bout et d'aller un peu vers mon inconfort, mais surtout vers cette envie, cette passion d'être sur la mer, quoi. Et puis d'aller jusqu'au bout, surtout de monter un projet, enfin des projets, ouais. qui ressemblent à quelque chose, quoi. Pas juste faire des coups d'essai comme ça.
Vous avez même fait fabriquer un bateau de course, alors même qu'à l'époque vous n'étiez pas capable de le diriger seul, c'est ça?
C'est vrai, c'est vraiment ça, ouais. C'est exactement ça, ouais. J'ai bien compris qu'on n'allait pas venir me chercher. Enfin, j'avais eu ma première expérience en équipage sur les gros bateaux de course, et puis ensuite sur le large, on n'allait pas venir me chercher, j'avais aucune expérience. Et je me suis dit, si je veux exister dans ce domaine, dans ce monde, il faut que je me lance. Donc j'avais un appartement à Paris que je louais. J'ai vendu l'appartement, j'ai fait fabriquer le bateau, alors j'étais incapable d'en prendre, ouais. la barre, mais je l'ai loué à Nicolas Troussel, un grand skipper, et je lui ai dit, écoute, je te loue pas trop cher, mais avec moi à bord jusqu'au départ de la route du Rhum. Et donc, j'étais un peu son commis, son mousse, et il m'a beaucoup appris, et c'est comme ça que j'ai commencé en réalité.
C'est un monde assez fascinant, le monde des skippers, et qui passionne le grand public. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'on ressent lors de sa première course en solitaire au large? Ça doit être assez déconcertant de se retrouver face à soi-même, non?
Moi, après ma première route du Rhum, là, quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression de... J'ai une certaine fierté, mais surtout, j'avais l'impression d'avoir pris 10 cm de hauteur, d'avoir pris beaucoup de confiance en moi, et surtout, ouais. d'être arrivé moins con que quand je suis parti, quoi. Donc, on apprend énormément sur soi-même, c'est ça le challenge, et ce qui est grisant, et probablement pour laquelle on y retourne aussi.
Et est-ce que vous avez un regret par rapport à votre dernière route du Rhum? Parce que vous étiez comme beaucoup... abrité à Brest parce qu'il y avait des dépressions absolument dantesques, ouais. qui arrivaient, une météo extrême. Est-ce que avec le recul, c'est un échec? Vous avez dit ensuite, j'ai fait un bilan de compétences.
Oui, c'est vrai.
Ça veut dire que quelque part, vous regrettez d'avoir abandonné ce jour-là, alors que les éléments ne permettaient sans doute
non,
pas de prendre
la mer. Non, ça c'est du passé, il n'y a pas de souci. Il faut être aussi humble, hein, par rapport à tout, ouais. ça. C'est la mer, c'est le vent, les tempêtes. Il y a des grands marins qui jouent en Ligue des Champions. Moi, j'étais pas à ce niveau-là. J'avais peut-être pas le bateau aussi pour affronter ces éléments. Donc c'est pas grave, hein. Je pense que c'était la bonne décision, c'était très sage, et puis il y a eu beaucoup qui l'ont fait, et on a dit qu'en fonction de tes capacités, et les cons c'est ceux qui reviennent pas, hein. Oui. Donc derrière, ensuite quand je suis reparti sur un projet neuf, avec un bateau neuf, c'était aussi dire, bah, moi il faut que je sois à la hauteur du bateau, quoi. Donc il faut où j'en suis, comment faire pour progresser. Donc j'ai fait un bilan de compétences pour pas rater des éléments sur lesquels je dois travailler et faire balayer tout sur lequel je pourrais être à la hauteur de ce nouveau bateau et de ce nouveau projet.
Et vous vous sentez plus plus fort, plus à même d'affronter les éléments maintenant, aujourd'hui, en ayant progressé avec ce nouveau bateau?
Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas que les éléments, hein, parce que s'il faut s'arrêter encore et s'abriter, je m'abriterai, hein, évidemment. C'est pas trop l'histoire. Après, c'est maintenant, c'est un bateau peut-être plus robuste, où on peut plus se protéger, donc il s'y prête peut-être un peu plus. Et puis, moi, j'ai progressé parce que c'est 3 ans de travail sur différents supports pour apprendre encore mieux le métier. Et évidemment, j'ai des lacunes en commençant tard, donc c'est ça aussi qu'il a fallu combler.
Juste pour terminer, en travaillant cette interview, j'ai découvert quelques anecdotes qui sont quand même assez étonnantes.
Attention.
Vous avez oublié de mettre votre ceinture le jour du permis de conduire. Vous oubliez régulièrement le bouchon d'essence de la voiture à la station essence. Comment on peut être aussi étourdi dans la vie et être aussi carré dans le sport, parce qu'à bateau, il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est de la mécanique de précision en quelque sorte.
Alors vous allez vous rendre compte que souvent, c'est mes anecdotes tournent autour de la voiture. C'est pas mon élément, la voiture. Je suis pas à l'aise dans. Enfin, je sais conduire, hein, ça va, mais je suis étourdi en voiture. Ça m'intéresse pas beaucoup. La vie dans une bagnole. C'est un bel objet, hein, je reconnais, mais c'est vrai. Ouais, je suis souvent, il m'arrive souvent des bricoles en bagnole. Ouais. Mon fils est né dans une voiture. Je suis arrivé trop tard à la maternité. Pour vous dire quoi. Mais bref. C'est un peu la blague me concernant. Je suis pas un
sur le bateau, vous êtes beaucoup plus carré. Rassurez-nous.
Je suis plus à l'aise, je fais plus attention.
D'accord, tout va bien. Très bien. Donc, on vous souhaite bonne chance pour le départ de la Transat Jacques Vabre. Ce sera dimanche. Merci beaucoup, Jean Galfion, d'avoir été ce soir l'invité de RTL.
Merci à vous.
RTL Soir.
Allez, on marque une petite pause et ensuite RTL Soir se poursuit. D'abord, on va vous rappeler les titres de l'actu dans un instant. On apprend tout juste qu'Emmanuel Macron va s'exprimer mardi à 20h sur la gestion de crise sanitaire, notamment. À suivre également dans l'émission, tendez l'oreille dans les dessous de l'actu, la NASA qui imite le Bruce Willis d'Armageddon avec un objectif dévier un astéroïde, objectif fou. Et puis retour sur Terre ensuite dans Laissez-vous tenter dernière avec Ibrahim Malouf, le génial trompettiste qui sort un album de Noël. Et c'est magnifique. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL. Bonne fin de journée, vous écoutez RTL, 18h29.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Et si vous vous branchez à l'instant, Marion Calais se charge de vous rappeler les grands titres de l'actualité.
Et c'est donc mardi soir prochain à 20h qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français. L'Élysée le précise ce soir à l'occasion pour évoquer la crise sanitaire et la reprise actuelle, mais aussi les réformes. 3 ans de prison dont un ferme, la condamnation d'Alexandre Benalla cet après-midi dans l'affaire des violences du 1er mai. Notamment, il devra porter un bracelet électronique. Avant Hugo Gaston, dans une heure face au numéro 2 mondial Daniil Medvedev, la qualification de Novak Djokovic pour les demi-finales du tournoi de Paris-Bercy. Victoire en 2-7 face à l'Américain Taylor Fritz.
Merci Marion. Le temps, Valérie, pour demain. Alors
de la grisaille le long des côtes de la Manche avec quelques pluies de rien, mais laissez tomber, le soleil arrive pour tous les autres quand même, avec des brouillards localement coriaces vers les régions de l'Est ou encore près des Pyrénées. Le plus beau soleil, c'est des Alpes à la Méditerranée qu'on le trouvera avec beaucoup de vent. Quant aux températures, elles seront en baisse demain matin, à peu près stables, mais donc un peu limite dans la journée. 10 à Besançon demain après-midi, 11 à Lyon et La Rochelle, 12 à Reims et Paris, 13 à Nantes et 18 à Nice.
On ne vous en veut pas. Merci Valérie.
C'est bien.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et attention, dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous d'une opération Armageddon.
Le gouvernement vient de nous demander de sauver le monde. Quelqu'un veut refuser ? Les astronautes s'entraînent pendant des années. Vous, vous avez 12 jours.
C'est mon père qui est là ! Je t'aime !
Armageddon.
Tous autour de la table ici en studio, Bruce Willis et ses gros muscles qui évitent une collision entre un astéroïde et la Terre. Et bien la NASA veut imiter Bruce Willis, c'est la mission DART. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quelle est l'idée ? Là aussi, dévier la trajectoire d'un astéroïde ?
Exactement, avec cette expédition DART, un fléchette en anglais, la NASA veut se préparer au cas où un astéroïde foncerait droit sur la Terre. L'agence spatiale américaine va tester une méthode qui permettra de dévier ce corps céleste afin qu'il passe à côté de notre planète plutôt que de nous tomber sur la tête. L'idée, c'est d'envoyer un petit engin s'écraser à la surface de l'astéroïde et le choc suffisamment puissant doit changer la trajectoire de l'objet cosmique.
Comment ils vont faire exactement ?
Eh bien, une fusée SpaceX va décoller le 24 novembre, heure de Paris, depuis la base californienne de Vandenberg, avec à son bord donc un petit vaisseau de 700 kg, gros comme 2 machines à laver. Elle le larguera en direction de l'astéroïde Dimorphos, à 11 millions de kilomètres de la Terre. Le voyage durera 10 mois et le vaisseau va se sacrifier pour la science en s'écrasant à 24 000 km/h sur l'astéroïde dans le but donc de dévier sa trajectoire. Et la NASA, par la suite, étudiera le résultat de ce choc extrêmement violent pour valider ou pas la méthode.
C'est génial. Il y a vraiment un risque de voir la Terre touchée par un astéroïde ?
Alors, un tout petit. Il y a 27 000 astéroïdes à peu près autour de la Terre. On les suit, on les surveille. Un des plus menaçants s'appelle Bennu. Les scientifiques estiment à 0,0...
Comme ça, ça fait pas très dangereux. Hein. Je ne veux pas me cacher.
Mais d'ailleurs, les scientifiques estiment à 0,057% le risque qu'il percute la Terre d'ici l'an 2300. Faut quand même savoir qu'à partir de 50 cm de diamètre, un astéroïde peut provoquer des dégâts sur Terre. Il y a un corps céleste de 15 km de diamètre qui heurterait notre planète, et bien ferait disparaître de sa surface la plupart des espèces vivantes, dont nous.
Explication de Sophie Jousselin, la Broussette Willis de cette rédaction. Merci pour ces dessous de l'actu sur RTL.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h32 minutes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Effectivement, comme chaque soir à cette heure-ci, les chouettes conseils de la chouette bande de Laissez-vous tenter. On vous propose un album super sympa ce soir avec Julia Molcou. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Un album tout doux, c'est la sortie du nouvel album d'Ibrahim Malouf aujourd'hui.
Oui, le grand trompettiste franco-libanais a sorti en effet aujourd'hui First Noël, un album sur lequel il reprend tout en douceur les plus grands airs de Noël.
C'est ça.
Bien.
Ouais, je l'ai. Pourquoi Ibrahim Malouf a eu envie de sortir un disque de Noël?
Il a dit que c'était d'abord parce que son fils va fêter son premier Noël et puis que ça faisait très longtemps qu'il avait envie de proposer ses propres versions des plus grands morceaux de Noël. Alors bien sûr, sur cet album, vous allez trouver les airs de Petit Papa Noël, Let It Snow qu'on écoutait, ou encore une reprise sublime de l'Ave Maria de Schubert. Un album qui s'adresse à toutes les générations. Vous trouverez aussi ma chanson de Noël préférée, version calme et trompette.
Maria Carré.
Nous sommes le 5 novembre, je déclare officiellement ouverte la saison de Maria Carré dans toutes les versions et tout le temps.
On ne s'en lasse pas quand même. Hein.
On ne s'en lassera jamais.
Vous avez vu qu'il y a un jukebox aux États-Unis dans un bar où ils ont interdit Maria Carré.
Je n'irai donc jamais dans le bar.
C'est très sérieux, une fois par jour seulement, sinon ça déconcentre les employés. Non, c'est vrai, ça marche très bien. En tout cas, la saison de Noël est officiellement ouverte
voilà,
grâce à vous, Julia.
First Noël, ou comment Ibrahim Malouf s'est réapproprié magnifiquement les plus grands airs. Bon, mais la version originale de All I Want for Christmas. Ça reste la meilleure,
mais c'est vrai qu'on adore quand même Ibrahim Malouf et on est très heureux de voir qu'il peut aussi se mettre à la page Noël. C'est un plaisir de l'écouter tout au long de l'année, mais encore plus à l'approche du sapin et des cadeaux. Merci Julia, on vous retrouve
demain matin avec Stéphane Carpentier,
des 6h de bonheur et de bonne humeur. On marque une courte pause, dans un instant on va refaire nos régions de RTL Soir, vos 20 minutes de curiosité près de chez vous, comme chaque vendredi, avec au programme des artisans de toute la France appelés à restaurer Notre-Dame, les polémiques camions à betteraves dans la Marne, un chou farci en Auvergne, et puis un coup de fil à un auditeur savoyard boulanger, expatrié aux Pays-Bas. A tout de suite sur RTL.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.